La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
La dernière émission avait été consacrée au surnom, ou plutôt aux musiciens qui avaient bénéficié d'un surnom généralement flatteur. Et là, nous étions dans le nobiliaire.
Ou le familial.
Et le familial, même jusqu'au médecin de famille inclus. Et ça nous a fait penser que le jazz est très riche en surnoms et que l'origine de ces surnoms est souvent assez intéressante, amusante et même parfois franchement divertissante.
C'est souvent très amusant, mais c'est souvent aussi très utile. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Noirs américains venus de l'esclavage, quand on leur a demandé leur nom, en réalité leur nom, c'était le nom de leur maître. Ce n'était pas du tout un nom africain qui donnait. C'était le nom de leur patron blanc. Et donc, ils étaient toute une foule à avoir le même patronyme.
Et donc, ils ont beaucoup développé la pratique du surnom.
D'ailleurs, c'était quelque chose de très courant, puisque dans certains villages encore maintenant, des villages que je connais bien, en Auvergne, il y a tellement de gens qui ont le même patronyme qu'on a toujours fonctionné avec les surnoms pour les distinguer.
Et même sans évoquer le nom de famille, directement le surnom.
C'est ça. À la poste, quelquefois, on était obligé de mettre le surnom pour qu'on ne se trompe pas de personne.
Nous voilà donc aux prises avec tout un tas de surnoms et nous avons décidé de commencer par les gens que nous avons bien connus. Après tout, ouvrir la boîte à souvenirs, ça fait toujours plaisir et puis on en sait un peu plus long. Et nous allons commencer par un prodigieux trompettiste que nous avons connu chez Duke Ellington.
C'était Monsieur Anderson, dit Cat, c'est-à-dire le chat.
En réalité, il s'appelait William Alonzo.
Mais alors, ce surnom de chat lui allait comme un gant.
Ah vraiment, oui.
Imaginez une figure un peu large, des yeux extraordinaires, très bridés comme un chat et vert. Alors que c'était un homme qui était noir.
Attends, il était Navarro, quelque chose comme oui, ça, oui. Un petit peu quelque part.
Et franchement, ça se voyait parce que ses yeux verts et bridés, quand il les ouvrait, c'était absolument comme un chat.
Cat Anderson a pas mal vécu en France. Il aimait beaucoup la France. Et il a été pris dans un projet développé par Moustache, le fameux batteur personnage de la vie parisienne. Et ce projet, c'était de mettre en jazz des morceaux de Georges Brassens, avec Georges Brassens lui-même au studio, en train de gratter la guitare, parce qu'il aimait beaucoup ça, taper les grilles, Georges Brassens. Et notre ami Cat a été pris là-dedans, donc, et il s'est retrouvé dans un morceau
dont le titre, naturellement, est français, puisqu'il s'agit d'un titre de Brassens, « Le temps ne fait rien à l'affaire ».
Thank you. ce genre de coup de rein, je dirais, dans la trompette, ça s'appelle le drive. Et là, franchement, si quelqu'un avait du drive, c'était bien. Cat Anderson, l'orchestre qu'il accompagnait s'appelait Les Petits Français. Et c'était de très très bons musiciens. Irakli, à la trompette, Irakli, c'est un des piliers du jazz français, Irakli. Michel Atenou, le saxophone soprano, Benny Vasseur, le trombone.
Alors, ce qui est très intéressant, quand on écoute ça, on a l'impression que ces musiciens sont survoltés, complètement portés par la présence de Cat Anderson et certainement de Brassens aussi. Pour ces musiciens, jouer avec des gens comme ces deux-là, c'est un petit peu comme un musicien classique qui verrait Mozart dire « je vais faire un petit bout de piano avec vous ». Vous imaginez un petit peu ce que ça peut représenter de jouer avec des gens comme ça. C'est vraiment un catalyseur, Cat.
C'est aussi un catalyseur, puis c'était un très grand musicien. Voici maintenant venir un autre très grand ami qui s'appelait George Holmes Tate.
Et tout le monde l'appelait Buddy Tate. Pourquoi Buddy ? Parce que ça veut dire « petite tête ».
Eh, petite tête, son nom de jeunesse, il y a d'ailleurs beaucoup de jazzmen qui ont conservé ce surnom-là, Buddy. C'est familier, ça s'adresse à quelqu'un de généralement plutôt sympathique et convivial, et on lui dit, c'est le petite tête, c'est l'équivalent. Et ce Buddy Tate, c'était un saxophoniste ténor qui a, dans sa jeunesse, beaucoup joué avec l'orchestre de Count Basie, et il avait son propre orchestre, à lui, en résidence permanente, dans un club de Harlem. Cet orchestre-là, donc un orchestre régulier qu'on va entendre maintenant, c'était le Celebrity Club Orchestra de Buddy Tate. Et le morceau s'appelle...
D'un nom curieux, Fatback and Greens.
Ce qui pourrait vouloir dire...
Gros dos et Greens, ce sont les billets verts.
Donc si vous voulez des dollars, bah faites le gros dos. D'ailleurs, on pourrait ériger ça en maxime politique.
Silence.
Chut. Voici maintenant un sacré phénomène, c'est le cas de le dire. Il s'appelle George Cooper.
Et nous, quand on l'a connu, c'était un petit jeune homme. Nous étions des petits jeunes gens. Il est venu dîner à la maison et on lui a demandé pourquoi il avait ce surnom de Buster.
Oui, parce que si vous dites George Cooper, on pensera peut-être à la course automobile ou à je ne sais quoi. Mais chez les jazzmen, vous n'avez même pas besoin de dire Buster Cooper. Vous dites Buster, c'est Buster Cooper.
Et alors, Buster, ça veut dire... phénomène. Et effectivement, il nous a raconté que quand il est né, c'était un petit bébé de 7 kilos.
pauvre, pauvre maman.
Oui, et que du coup, sa réputation était faite dès sa naissance. C'était un phénomène.
Physiquement, c'était une sorte d'athlète. Enfin, elle était très athlétique.
Mince, comme tout. Hein. Ça n'a jamais été un gros, hein. Sauf quand il est né.
Et alors, au trombone, c'était un athlète absolument complet. Eh bien, vous allez entendre ce morceau de trombone, qui est vraiment un concerto pour trombone, sur un arrangement de Cat Anderson. Et vous penserez qu'on a dû le faire 4 fois, parce que les ingénieurs du son n'arrivaient pas à assumer la différence de volume sonore entre les passages les moins puissants et toute la puissance que Buster déployait à d'autres moments. Et finalement, ce morceau qui s'appelle...
Trombone Buster, évidemment.
Eh bien, il est assez phénoménal. Quel bois se chauffait ce trombone qui était Buster Cooper.
Ah mais il y a une suite à cette histoire.
Ah oui, il y a une suite à ce morceau. Parce que figurez-vous que Duke Ellington n'aimait pas que ses musiciens enregistrent des disques sans son autorisation et il ne la donnait naturellement jamais.
Oui, les musiciens, quand ils rentraient à l'orchestre Ellington, lui promettaient l'exclusivité. Mais tout le monde savait qu'il y avait des petites entorses, il ne fallait pas que ce soit trop visible.
Mais alors il y a une suite. C'est qu'Ellington a appris que ce disque avait été enregistré.
Il avait des grandes oreilles.
Il avait de grandes oreilles, puis il se l'est procuré. Il a convoqué Buster Cooper et il lui a dit « Buster, je voulais faire écouter quelque chose ». Il a mis le morceau que vous venez d'entendre. Il a regardé Buster Cooper qui était aussi penaud qu'un chat pris dans la patte dans un aquarium. Et il lui a dit « C'est très bien, Buster. Vraiment, c'est très bien. Mais puisque c'est comme ça, vous me ferez ça tous les soirs sur scène.
» Il fallait être en forme pour faire ce genre de truc.
Et pour Buster, il a dû se taper cet exercice de style extraordinaire, et sous un autre nom que Trombone Buster en plus. Le musicien suivant était un petit bonhomme, très rigolo, charmant, sympathique au possible, et qui s'appelait Roy. Et il a été surnommé...
Little Jazz.
Little Jazz parce qu'il était petit. Petit mais pas épais. Hein.
Au fond, c'était un peu comme si on l'avait appelé Petit Monsieur Jazz, quoi.
Petit Monsieur Jazz, exactement. Ce surnom n'a pas beaucoup, finalement, traversé le temps parce que, Quand on parle de Roy Eldridge, on dit Roy plutôt que Little Jazz.
Oui, ou Roy Eldridge.
C'était un formidable trompettiste. D'ailleurs, il a influencé pas mal de monde. Et là, on le retrouve avec Oscar Peterson à l'orgue, et le trio Peterson. Et c'est un morceau, c'est une sorte de solo de trompette, tout à fait bien construit. C'est un modèle, c'est un modèle. Ça s'appelle...
Tell a Swale.
Ça nous amène naturellement au principal disciple de Roy Eldridge.
Qui s'appelait Harry Edison, mais dont le surnom était...
Sweets.
Sweets, il y a deux choses. Bon, vous savez, en anglais, ça veut dire tout ce qui est un peu sucré. Donc les gâteaux, les bonbons. Peut-être qu'il aimait beaucoup ça, mais peut-être.
Pour l'avoir un peu fréquenté, je n'ai jamais remarqué que Harry Edison s'affalait sur les gâteaux comme un futur diabétique. En fait, renseignement pris, je crois que ce surnom lui a été donné par les dames.
Ah, qui le trouvaient dégustable comme un gentil petit bonbon.
Oui, je crois que c'était une gourmandise, ce sacré Edison.
D'ailleurs, pour ces dames.
Il avait l'œil filtrant. Et c'était aussi un œil vert, lui. Hein. C'était un moitié indien, noir et indien aussi.
Ah, comme,
On en rencontre beaucoup, on ne se rend pas compte, finalement. Mais on en a quand même rencontré quelques-uns. La semaine dernière, on a parlé de Doc Chitam, qui était dans le même cas. Et voici Harry Edison dans un aspect de son jeu assez particulier, puisque là, il accompagne, et il accompagne...
Jimmy Rushing, qui lui-même avait un surnom, mais alors totalement mérité, n'est-ce pas là ? On n'a aucun doute sur l'origine, parce qu'on l'appelait Mr. 5x5, ce qui veut dire Monsieur 5x5.
Voilà, ça c'est Buddy Tate qui nous avait raconté ça, parce que ce n'est pas sur les pochettes de disques quand même.
Oui.
C'est comme ça qu'il l'appelait entre eux, quoi.
5x5, ça veut dire... que ce monsieur, il était aussi large que haut.
5 pieds de haut, 5 pieds de large et 5 pieds de profondeur.
Voilà. Voilà.
Il était assez cubique. C'était un crieur de blues, un blues shouter. Et il a beaucoup chanté avec l'orchestre de Count Basie. Comme Harry Edison, il a beaucoup joué de la trompette. Et comme Buddy Tate, il a beaucoup joué du saxo. Là, on est quand même en plein Kansas City.
C'est la famille.
La partie de trompette qui accompagne le vocal est... tout à fait passionnante, la partie de Sweet Edison. Et le morceau s'appelle...
Good Morning Blues.
Les paroles sont... Bonjour, blues, comment vas-tu ? C'est amusant parce que entre Harry Edison, Sweets, et celui qu'on va entendre maintenant, il y a 1 mètre de distance parce qu'ils étaient voisins de pupitre en fait.
Toujours chez Basie, évidemment.
Oui, d'ailleurs, il y a des tandems de trompettistes comme ça qui sont restés légendaires dans le jazz. Il y a eu d'abord Louis Armstrong et King Oliver. Chez Fletcher Anderson, il y avait Tommy Lanier et Joe Smith. Et chez Count Basie, il y avait Harry Edison et Buck Clayton. Wilbur Clayton dit Buck.
Buck ? Ça a 2 significations, ça veut dire dollar et ça veut dire jeune homme. Mais quand on met un petit peu tout ça ensemble, c'est un peu le beau jeune homme d'avenir, voyez.
D'ailleurs, il avait été amené dans l'orchestre de Béziers presque par hasard, parce que un des trompettes était parti et un des saxos ténors lui a dit: je connais un type qui vient d'arriver de Californie qui joue comme un fou. Et c'était Buck Clayton. Il était tout jeune. Alors ce qui est drôle, c'est que quand on voyait Buck Clayton et Ray Edison ensemble, ils avaient un physique très voisin. Ils avaient les mêmes yeux.
Des yeux très clairs, verts.
Verts. Voici dans un arrangement de Jimmy Mundy, l'orchestre de Count Basie. C'est une sorte de concerto pour trompette. Et ça s'appelle...
Fiesta in Blue.
Voici maintenant Milton Meserot.
Plus connu sous le nom de Milton Meserot et encore plus connu sous le surnom de Mez.
Il est l'auteur d'un livre que vous devriez lire si vous le trouvez. Un livre prodigieux d'un personnage prodigieux.
Dans ce livre, vous avez toute l'Amérique des musiciens noirs américains, alors que je précise bien que Mez était parfaitement blanc.
C'est une sorte de blanc qui s'est fait noir, qui a été vivre chez les Noirs.
Il avait même trouvé le moyen d'avoir une carte d'identité où il était marqué qu'il était noir.
Oui, jusqu'à venir s'installer en France dans les années 50, il a habité à Harlem. Et alors Mez était le plus grand trafiquant connu chez les musiciens de la meilleure qualité possible et imaginable de ces produits interdits qui servent à faire des joints. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que dans son livre, il y a beaucoup de passages là-dessus, et que c'était le livre de chevet de toute notre génération, et que personne n'a jamais touché à ce genre de truc.
Oui, mais il expliquait quand même le combat qu'il avait dû livrer quand il s'est rendu compte qu'il était tellement opiomane qu'il allait en mourir. Et là, il a raconté comment il s'est sevré lui-même. C'est un passage hallucinant. Lisez-le, vous comprendrez comment ce type qui avait une énergie faramineuse...
Une grosse volonté.
Il est arrivé à en sortir tout seul. Lisez-le. Ça s'appelle « La rage de vivre ».
C'est un livre de poche, d'ailleurs. « La rage de vivre », exactement. Et c'est une fresque extraordinaire sur le jazz.
Et le milieu du jazz.
Chicago, New York, et toute la première époque du jazz, ou la deuxième, si on veut, est magnifiquement expliquée là-dedans. Et rassurez-vous, donc, Mez n'a fait aucun émule côté marijuana dans notre génération. Nous nous sommes tous passés de ce genre de choses pour jouer. Et je peux même vous dire que... Tous les copains que j'ai et moi-même, nous avons toujours fonctionné à l'autoproduction d'adrénaline.
Votre drogue, c'est le jazz.
On peut le dire comme ça. Pendant quelques années, Mez a été le fondateur et propriétaire d'un label de production de disques qui s'appelait King Jazz. Et il a enregistré pour ce label ses plus beaux disques, toujours en compagnie de Sidney Bechet dans le fameux Bechet Mezro Quintet. Et nous extrayons ce morceau emblématique qui s'appelle
« Gone Away Blues ».
Le blues de celui qui est parti. Le musicien suivant est cher à notre cœur.
Nous avons une bonne raison pour ça. C'est que cet homme-là, mais on vous l'a peut-être déjà dit, eh bien, il a joué à notre mariage. C'était Stuff Smith.
Ezekiah Smith dit Stuff. Stuff, ça veut dire un peu tout.
Le truc, voilà. Ouais. On pourrait traduire un peu le par truc.
Ouais, c'est quand même très imparfait parce qu'il y a une nuance de travail, d'affaires, de prestations, de contrats remplis aussi. Stuff, c'est le... C'est le truc.
Il jouait du violon, ce qui est rare dans le jazz.
Et trois jours avant, Stuff Smith avait fait un disque en duo avec Stéphane Grappelli. Et ça s'appelle...
How High the Moon. Thank you.
Voici venir maintenant une dame, et même une grande dame du gospel.
Enfin une dame au milieu de tous ces messieurs.
Un peu de tendresse dans ce monde de brutes. Elle s'appelait Rosetta Tharpe.
Et son surnom, c'était Sister. Sister, ça peut être une sœur, c'est-à-dire une religieuse.
C'est ça, sœurrosette.com.
Voilà, exactement. Ça peut être aussi le terme américain qui dit « Hi, sister ». Allez, une gentille petite copine, quoi.
Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. En réalité, elle a atterri très jeune dans un big band, qui était celui de Lucky Millinder. Elle en est devenue la chanteuse. Et quand on voit quelques extraits de films de l'époque où elle apparaît parmi tous ces messieurs, toute menue, avec une voix au perché, on comprend pourquoi elle était appelée Sister.
Oui, c'était la vraie gamine, la petite sœur de tous ces musiciens.
En fait, c'était Little Sister. Alors ça la faisait beaucoup rire parce qu'elle disait « Tout le monde s'imagine que je suis catholique parce que je m'appelle sœur, mais je n'ai rien à voir et c'est simplement à cause de mes débuts. »
Ce nom de Sister lui allait tellement bien parce qu'en réalité, elle avait choisi de faire du gospel, c'est-à-dire du chant religieux. Parce qu'elle était partie de là et puis elle avait commencé avec de la musique religieuse puisque c'était des gospels. Et puis, elle s'était un petit peu étendue, elle avait étendu son répertoire jusqu'au jazz.
Musique du diable.
N'est-ce pas? Et le milieu religieux assez sévère de l'époque lui avait expliqué, ma petite, il faut choisir.
Donc, elle avait choisi le gospel. Elle jouait de la guitare, elle est très connue pour ça, mais elle joue aussi du piano. Une fois, chez elle, à Philadelphie, nous lui avons demandé de prendre le piano. Et elle l'a fait bien volontiers. Ça tâtonne un petit peu au début, c'est amusant à entendre. C'est un vieux gospel qui s'appelle...
Just a little while.
To stay here.
Un tout petit moment.
À passer ici.
So ever since then, I've been playing the piano. From 6 years old. And also guitar. Just a little while to stay here. Just a little while to stay here. Just a little while to wait. Just a little more of trials in this sinful world of hate. Soon our life will soon be over, and no sorrow we will bear. When we enter heaven, heaven's portal will go sweeping through the pearly gate. As we go through hard trials and tribulations, in this world we have to stand our test. But we have to have faith, even have to have hope, that someday we shall not be moved. Because after a while we won't be here too long. We don't know the day or the hour. But we're asking God to help us to be ready. So that's the reason why I say I. I know it's just a little while to stay here, just a little while to wait, just a little more of trouble in this low and sinful state, just a little more of trials, a little more patient, that's all. Soon we'll enter heaven, heaven's portal. We'll go sweeping through the pearly gate. Just a little while, just a little while to stay here, just a little while to wait, just a little more of suffering in this low and sinful state, just a little more of trials in this low and sinful state. Soon our troubles will be over. No more crying, no more weeping, no more sighing. No, 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 no. We go sweeping through the pearly gate.
Voici maintenant un personnage dont pas mal de gens se souviennent, car il a été filmé pour la télévision à plusieurs reprises, et qu'à l'époque, on était très frappé par la forme de ses mains.
Ben, ça s'explique assez. D'abord, il vivait en France, donc de nombreuses personnes l'ont connu, personnellement bien sûr.
Oui, il s'était installé en France à l'occasion d'une tournée au début des années 60. Il est resté.
Et cet homme, ben, son surnom c'était Slim.
Memphis Slim.
Voilà. Et Memphis, ben bien sûr, c'était...
C'était là où il était né.
Là où il était né. Mais Slim, ça veut dire mince, long.
C'est le grand sec.
Oui, oui.
C'est le grand sec.
Et c'est vrai qu'il était très grand. Et comme tu disais, ses mains étaient impressionnantes. Très longues, très fines.
Et avec des doigts qui se recourbaient en spatule.
Oui.
C'était très curieux de le voir jouer du piano, à l'absence de pattes d'araignée sur le clavier,
tellement ouais,
c'était
étonnant.
Spatulé. Et c'est un des plus grands bluesmen, on a eu beaucoup de chance en France de l'avoir comme ça, vraiment c'est un des plus grands, mais son vrai nom c'était Peter Chatman. Il avait beaucoup fréquenté les chemins de fer de marchandises comme hobo, et quand nous l'avons connu, eh bien ma foi, c'était devenu un artiste reconnu, je dirais même prospère, roulant en jaguar et d'une distinction extrême.
Que je vous précise qu'un hobo, c'est un type qui se mettait sous les wagons pour être transporté gratuitement, évidemment, mais qui risquait sa vie à chaque fois.
Pour pas être repéré par la police ferroviaire. En tout cas, voici à quoi ressemblait ce que nous entendions à l'époque quand Memphis Slim jouait le blues.
Blues Nick.
Nous ne savons pas qui est Nick.
Thank you.
Voici maintenant un autre surnom étonnant. Il s'appelle Muddy Waters.
Et ça vient, un peu comme Memphis Slim, parce qu'il était de Memphis, et bien là, ça vient de l'endroit d'où il venait.
Et oui, il était né au bord du Mississippi. Nous avons appris que ce surnom lui avait été donné par sa grand-mère. Car quand il était petit, il allait tout le temps jouer dans la boue du Mississippi et il revenait boueux des pieds à la tête.
Muddy Waters.
Muddy Waters. Ne croyez surtout pas que Waters, c'est son nom de famille, et Muddy, son prénom. En réalité, il s'appelle...
McKinley Morganfield.
Oui, ce qui avoue que ça n'a pas grand-chose à voir. Alors nous l'avons rencontré de manière assez étonnante. Nous savions à quel hôtel devait descendre une caravane de blues et gospel qui venait dans les années 60, une des premières.
Et qui faisait une tournée.
À Paris, exactement. Et ça commençait à Paris, ils arrivaient de l'aéroport, tout cela. On était à l'autre. Et puis, les organisateurs de la tournée n'étaient pas là. Alors, il avait fallu s'occuper de tous ces gens. Et donc, on les a installés dans leur chambre et puis on les a emmenés déjeuner dans une pizzeria, c'était près de Saint-Germain-des-Prés. Et puis après quoi, ben, on s'est occupé d'eux, faire des courses... acheter, aller à la banque, enfin, je vous passe.
Et pendant tout ce temps-là, les organisateurs n'étaient toujours pas là.
On n'a jamais su quand ils sont arrivés, parce qu'à un moment donné, il a quand même fallu qu'on s'en aille. Et c'est comme ça qu'on a rencontré et passé l'après-midi à cornaquer Muddy Waters dans les magasins près de Saint-Germain-des-Prés. Eh bien, le soir même, ou le lendemain, je ne sais plus bien, a eu lieu le concert. Nous allons se donner un extrait. C'est pas plus difficile que ça.
Et alors, c'est amusant, parce que ça s'appelle « Five Long Years ». Ce qui veut dire 5 longues années. Ils n'ont pas attendu, les organisateurs, 5 longues années, rassurez-vous.
Oui, quand même pas. Là, Muddy Waters, qui joue de la guitare et qui chante, est avec un jeune pianiste qui est mort peu de temps après, prématurément. Très bon pianiste, s'appelé Otis Spann. 5 Long Years.
Steel mill, sucking steel like a slave. Fight long, yeah, they be fighting. I came straight home with all of my pay. Yes, I've been mistreating. You know what I'm talking about. Five long years for one woman. She had the nerve to put me out. Look at here. She's the wrong woman. Thank you.
blessing. And a long, long time ago, the next woman that I married, she got to work and bring me some dough. I've been mistreating. You know what I'm talking about. Five long years for one woman. She had the nerves. She had the nerves. She had the nerve to put me out.
Et maintenant, voici le surnom des surnoms. Voici l'animal rugissant.
The lion.
On a souvent parlé dans cette émission de Willie Smith, le lion. Surnommé ainsi à cause de son ardeur au combat pendant la guerre de 14, où il était arrivé dans les troupes du général Pershing.
En France.
À moins que ça ne soit en référence au lion de Juda, car le lion était également professeur de chant hébraïque. À moins que ce ne soit encore parce que quelquefois il poussait des petits rugissements en jouant du piano.
Vous voyez que tous ces lions se retrouvent en une seule et même personne.
D'ailleurs, quand on lui demandait laquelle des trois versions était la vraie, il répondait « les trois, tout ce qu'on dit du lion est vrai
». Car il parlait volontiers de lui-même à la troisième personne.
Et voici une séance à laquelle nous assistâmes à Paris, à l'occasion d'une tournée qu'il fit en France dans les années 60, et une de ses compositions qui s'appelle
Sparklets, petites étincelles, tout simplement.
Par Monsieur William Henry Joseph Bonaparte Bertholoff, Willie Smith, dit le lion. Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.